Nous nous dirigeons à Boumerdès pour notre première affaire en Algérie. Il s'agit d'une petite ville côtière de Grande Kabylie, se situant à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, Alger. Keltoum Rekila est une jeune femme algérienne. Elle est née en 1988 ou 1989 au sein d'une famille nombreuse. Malheureusement, le père de famille décède. La famille Rekila est pauvre et il est difficile de nourrir tout le monde convenablement. L'adolescente grandit et souhaite fuir son quotidien. À 16 ans, vers l'année 2005, elle se rapproche d'un jeune homme qui est malheureusement consommateur de stupéfiants et l'épouse. Ici, on n'a pas son prénom, donc je vais lui donner un nom d'emprunt pour que ce soit plus facile pour la suite. Donc à partir de maintenant, on va le nommer Ali. Et petite parenthèse, je vous vois venir dans les commentaires. Mogo, t'as le nez balafré, qu'est-ce qui t'arrive? Venez sur Instagram, je vous donnerai la réponse. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose, une petite griffure. Enfin bref, je vous dirai ça en privé sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, le lien est juste en bas. Enfin bref, reprenons notre récit. Comme je vous l'ai dit, l'homme qu'elle va rencontrer, on va le nommer Ali. Ce n'est qu'après leur union que la jeune mariée se rend compte des penchants de son époux. Ali n'est pas seulement un drogué notoire, il est dealer. Il se révèle aussi être violent, et plus particulièrement envers sa femme. Keltoum va subir cette violence dès les premiers temps de son mariage, mesquine. Si elle pense quitter son domicile afin de rentrer chez ses parents, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Et pour cause, la jeune fille va tomber enceinte. Le mariage dure et il est teinté de violence. Keltoum accepte les coups et les menaces de la part de son mari. Maintenant, elle a désormais des enfants à protéger. Par la suite, un deuxième enfant est venu agrandir la famille. Ali, quant à lui, n'est pas une personne sérieuse ni responsable. L'homme cumule les vices et fait régner la terreur au sein du foyer familial. Il n'assure pas non plus financièrement le foyer, et Keltoum se retrouve bien obligée de trouver une solution elle-même. Elle réalise une formation en pâtisserie, et devient par la suite elle-même formatrice dans cette spécialité. C'est là qu'on voit à quel point elle était débrouillarde, une vraie battante. Keltoum et son mari sont désormais unis depuis 13 ans. À l'approche de la trentaine, la jeune femme songe poursuivre sa vie, mais uniquement avec ses enfants. Elle y réfléchit de plus en plus lors de sa troisième grossesse, et dès que l'enfant naît, Keltoum prend sa décision. Elle fait une demande de divorce, mais la procédure n'est pas prise en compte. Une femme seule avec trois enfants, la situation ne peut pas exister. Keltoum se retrouve obligée de demeurer au sein du foyer familial, un logement social au nom de son époux pendant un an. La jeune mère est obligée de vivre encore des mois terribles auprès de ce mari violent. Mais maintenant, il sait qu'elle désire s'en aller, donc la violence sera de plus en plus grande. Ali tente désormais d'égorger sa femme. Elle lui a fait subir une humiliation en exprimant le souhait de divorcer. Pour lui, elle doit payer. Keltoum va s'enfuir. Elle parvient à quitter les lieux et laisse ses enfants derrière elle. À ce stade, c'était malheureusement une nécessité. Elle était en danger. Si elle reste sous le même toit que son mari, c'est la mort qui l'attend. La jeune femme vit 7 mois au sein d'un centre d'hébergement. C'est une période difficile pour elle car elle n'a plus de lien avec ses enfants. Elle est seule et ne peut pas savoir ce qui se déroule désormais chez elle. Son mari retire sa fille, qui est l'aînée de la fratrie, de l'école, afin qu'elle s'occupe de ses deux frères. L'homme ne s'occupe pas de ses enfants, même quand ils sont malades. C'est dire à quel point il s'en foutait complètement. Keltoum souhaite agir pour récupérer ses enfants. Elle a obtenu un rendez-vous avec un juge des mineurs, mais un problème survient. Le centre d'hébergement contrôle les déplacements des femmes y séjournant. C'est un lieu avec un règlement strict. Keltoum doit apporter énormément de documents auprès de l'administration de son lieu de vie afin de pouvoir sortir. On lui remet une autorisation de sortie, mais elle manque de peu le rendez-vous. Compte tenu de ce qu'elle vient de vivre, Keltoum ne souhaite plus vivre ici. La jeune femme quitte le centre et trouve refuge quelque temps chez des membres de la famille. Ces personnes semblent assez réticentes pour l'accueillir dans un premier temps, ce qui l'incite à trouver un lieu de vie rapidement. Alors ici, je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Keltoum est une femme de 30 ans et on lui refuse de sortir du centre alors qu'elle a un rendez-vous important. C'est à se demander si c'est un centre d'hébergement ou une prison. C'est juste absurde. On lui demande une autorisation comme si elle était toujours sous la responsabilité de ses parents. Donc ici, on comprend parfaitement qu'elle ait voulu s'en aller. C'est normal. Keltoum est dans une situation désespérée depuis plusieurs mois. Elle n'a pas de logement fixe et elle est sans argent. La jeune femme se sent si démunie qu'elle se rend à l'hôpital Mustapha d'Alger dans l'idée de vendre son rein. Vous avez très bien entendu. Dans l'idée de vendre son rein. C'est là qu'on voit à quel point elle était désespérée, la pauvre. Et concernant cette demande, selon les sources, il n'y aurait pas eu de suite. Keltoum envoie des courriers désespérément à l'APC, l'Assemblée Populaire Communale. C'est un organisme présent dans chaque commune. La jeune mère ne demande pas grand-chose. Elle souhaite juste obtenir un petit local afin d'accueillir ses enfants. Si elle veut les retrouver, elle doit être dans une situation stable. Keltoum n'a pas le choix, c'est une condition imposée par le juge. Elle n'a même pas de désir particulier sur le logement en question. Ça peut même être une cave ou un garage, peu importe. Elle souhaite également trouver un emploi et fait diverses demandes auprès des services publics, afin de trouver un petit endroit où elle peut exercer son activité de pâtissière. Keltoum trouve enfin de l'aide pour une location, mais on va lui mettre à nouveau des bâtons dans les roues. Les agences immobilières vers lesquelles elle se présente sont réticentes à l'idée de louer à une femme seule, et ce même si ses enfants doivent la rejoindre plus tard. C'est un nouveau coup dur pour la jeune femme, et elle doit redoubler d'efforts. Keltoum réitère ses demandes et fournit des garanties à ne plus en finir. Finalement, elle va enfin obtenir ce qu'elle demandait, un logement. La jeune femme ne perd pas de temps, et dès qu'elle a les clés, elle prend quelques affaires, s'installe et fonce récupérer ses trois enfants. À ce stade, c'était le soulagement pour elle. Elle qui n'avait pas vu ses enfants depuis plusieurs mois. Je pense que pour la plupart qui ont des enfants ici, ça doit être un déchirement d'être séparé de ses enfants. Ça, c'est sûr. Et franchement, je le souhaite à personne, parce que Keltoum a dû souffrir de cette séparation. Enfin bref, Keltoum inscrit à nouveau sa fille à l'école. L'un de ses fils est malade depuis un petit moment, donc elle prend soin de lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Elle s'occupe également de faire fabriquer des lunettes pour son autre fils qui a des problèmes de vue. Keltoum reprend son rôle de mère, aimante et attentionnée. Elle n'a pas vu ses enfants depuis plus de 7 mois, donc elle prend bien soin d'eux. C'est la fille du couple qui s'est retrouvée dans le rôle de maman, mais c'est elle-même un enfant. La petite devait avoir 12 ans environ. Ce n'est pas un âge pour se retrouver à s'occuper de ses frères. Elle était beaucoup trop jeune pour avoir des responsabilités. Entre l'un qui a traîné une maladie longtemps et le second qui ne voyait pas très bien, ça devait être compliqué. Et aussi pour la maman Keltoum d'ailleurs, ça a dû être difficile de les récupérer dans cet état. Personne n'était là pour prendre soin d'eux les pauvres. Et vous avez compris que le père, bah, il s'en foutait complètement. L'ex-mari de la jeune femme, et ce même après un divorce, se montre toujours aussi menaçant. Keltoum reçoit des vidéos et des messages constamment de sa part. Ali assure qu'il a de l'argent et qu'elle doit revenir. La jeune mère ne se sent pas en sécurité et se rapproche des autorités. Avec elle, elle fournit toutes les preuves en sa possession. Elle rappelle aussi qu'il a tenté de la tuer avant qu'elle ne quitte le domicile conjugal et qu'elle se retrouve en centre d'hébergement. Ali fait pression sur tout ce qu'il peut, comme par exemple ne plus verser la pension alimentaire pour les enfants. Il essayait par tous les moyens de lui pourrir la vie et qu'elle souffre. Peu de temps après, l'homme finit par se remarier. Keltoum apprend la nouvelle et se dit que les temps difficiles sont terminés. Si Ali semble aller de l'avant, il ne compte pas en rester là concernant son ex-femme. Donc monsieur a de l'argent, mais il ne fait pas soigner son fils malade. Et ce n'est qu'au retour de sa mère que le second aura des lunettes pour mieux voir. Soit il mentait dans le but d'attirer Keltoum, soit il disait vrai et il gardait tout son argent. Je trouve ça tellement triste d'avoir un père de la sorte, c'est juste honteux en fait. Enfin bref, si vous doutiez jusque-là que Keltoum est une battante, vous allez avoir de nouveaux exemples. La jeune femme a des soucis de santé depuis plusieurs années. Elle est épileptique. Elle doit prendre un traitement, mais préfère s'en passer dans le but de rester lucide. La mère se bat chaque jour encore pour des petites comme des situations importantes. La DAS, la direction de l'action sociale et de la solidarité de la Wilaya d'Alger, ne lui verse pas la pension des enfants depuis des mois. Keltoum, en tant que mère seule, devait avoir des droits et des aides sociales, et elle comptait sur elle afin de s'en sortir. Déjà qu'Ali ne versait pas la pension alimentaire, ça devenait très compliqué pour elle. Keltoum va appeler à plusieurs reprises le centre d'écoute de Wasila. Il s'agit d'une structure d'aide pour les femmes. Ils vont les aider à s'orienter et leur permet de s'exprimer par rapport à leurs difficultés. Elle permet de fournir également des conseils en droit et bien d'autres domaines. Keltoum est assez isolée et ses appels lui donnent de l'espoir pour l'avenir, lui donnent du courage. Elle donne des nouvelles sur son quotidien, car elle doit tomber régulièrement sur les mêmes interlocuteurs. Concernant sa recherche d'emploi, elle n'a pas été toute rose. Elle a été confrontée au harcèlement sexuel dans le domaine public et privé. Les personnes qu'elle rencontrait connaissaient peut-être sa situation et souhaitaient en tirer avantage. Cela la terrifiait, elle subissait un enfer. Malgré ses craintes et ses inquiétudes, la jeune femme garde la joie de vivre. Elle profite d'avoir retrouvé ses enfants et fait des petites sorties avec eux pour créer des souvenirs. Keltoum ne s'arrête pas là. Elle a beaucoup de projets en tête. Elle a désormais pour projet de construire une maison pour elle et ses enfants. La jeune femme se trouve un terrain dans un quartier de confiance où elle connaît le voisinage. Elle pourra également bénéficier d'aides de la part d'associations. Elle entreprend les premiers travaux et la structure de la future habitation prend forme. Le 8 février 2022 notamment, elle est accompagnée par Dalila Lamarène du réseau Wasila dans quelques démarches, mais rien ne va se passer comme prévu. De nombreux problèmes vont se produire. La maison dont elle débutait la construction est détruite, contrairement à d'autres maisons du quartier. Keltoum est dévastée et se sent de plus en plus démunie face à son quotidien. La jeune femme souhaite récupérer une copie de l'ordre de démolition de sa maison. On la renvoie vers la brigade de gendarmerie et elle est accueillie par le chef de brigade. Keltoum et l'homme se connaissent déjà. C'est lui-même qui lui a permis de récupérer ses enfants. Mais concernant cette situation, la gendarmerie est impuissante. Cette décision a été prise par l'APC pour plusieurs raisons. À ce stade, je commence à me poser la question si cet organisme n'a pas un problème avec cette femme. Elle demande de l'aide, elle essaie de s'en sortir, mais toi, tu vas rien faire pour l'aider. Keltoum a des projets et on les brise en même temps que sa petite maison. Ici, il y a un grand manque d'empathie et de considération, malheureusement. Enfin bon, le temps passe et comme vous l'imaginez, ça va être de plus en plus sombre. Le 13 février 2022, Keltoum prépare ses enfants afin de les emmener à l'école. Elle accompagne sa fille en compagnie de ses deux garçons de 10 et 3 ans et ils rentrent tous les trois. La mère de famille se trouve au téléphone avec son frère et parle des dernières menaces reçues de la part d'Ali. L'ex-mari de Keltoum est toujours présent dans sa vie. Il ne veut toujours pas la lâcher. Son nouveau mariage n'a pas apaisé son cœur, loin de là. Il a toujours cette haine en lui face à son ex-femme. Un jour, une personne fait irruption dans la maison de Keltoum. Elle a à peine le temps de réagir que l'homme se jette sur elle. Elle le reconnaît directement, c'est Ali, son ex-mari. Les garçons qui se trouvent également dans l'habitation sont terrorisés. Ali est dans une rage folle. Il a un couteau à la main et il décide de l'utiliser. L'homme va poignarder la jeune femme à mort, ne lui laissant aucune chance. Elle perd la vie à 33 ans, sous les yeux de ses garçons. Ali quitte les lieux par la suite, dans l'intention de retirer sa fille de l'école. L'adolescente refuse de le suivre. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'empressement de son père ne la rassurait pas. Concernant les garçons, on ne sait pas s'ils ont suivi leur père ou s'ils sont restés cachés dans la maison. Donc ça reste un mystère. Keltoum a malheureusement perdu la vie. Elle laisse derrière elle trois enfants meurtris par les événements. Une adolescente de 14 ans et deux garçons de 10 et 3 ans. Ces mêmes garçons ont été auditionnés à plusieurs reprises par les officiers de police afin de retracer le déroulé de la journée. Ils ont malheureusement du mal à comprendre que leur mère est décédée. Ils ne comprennent pas. Des membres du réseau Wasila, qui l'accompagnaient, se présentent au funérarium afin de lui rendre hommage. La structure regrette que plus de mesures n'aient été prises afin d'assurer la sécurité de Keltoum. Elle constate que le départ de la jeune femme du foyer familial semble toujours remis en question, même après sa mort. La fille de Keltoum se retrouve démunie face au corps sans vie de sa mère. Elle était sous le choc, cette pauvre fille. Perdre sa mère alors que tu as 14 ans, vous vous rendez compte? Une employée de l'hôpital lui aurait d'ailleurs dit suffisamment fort pour que d'autres personnes l'entendent « C'est ton père. Quoi qu'il ait fait, c'est ton père qui l'a tué. » Comme je le disais, quelle tristesse pour cette jeune fille qui doit traverser tout ça. Nous n'avons malheureusement pas connaissance de la suite de cette affaire. Et concernant les enfants de Keltoum, on n'a aucune information depuis les faits. Et je tiens à souligner que toutes les informations reportées proviennent d'un témoignage en particulier, celui de Dalila Lamarène du réseau Wasila. Sans elle, on n'aurait jamais entendu l'histoire de Keltoum Rekila. Je tiens d'ailleurs à terminer notre première affaire par ces mots, celle d'une femme qui a été choquée et attristée par cette histoire. Keltoum n'est pas seulement une victime de féminicide qu'on va enterrer rapidement pour l'oublier. Elle a été une jeune femme dynamique, avec des projets, une aspiration à être autonome et dans le défi de rendre ses enfants heureux. Elle n'était pas la victime abattue et larmoyante. C'était une femme forte, le regard droit, à la parole claire. Avant de passer à notre conclusion, restez parce que la suite, c'est du jamais vu. Notre deuxième affaire est particulièrement choquante et je me devais de vous la présenter. On se dirige en Inde, dans la petite localité de Garnavati. Le village se trouve dans la partie nord de l'Inde, dans l'état de l'Haryana, réputé pour être conservatrice. Nous sommes plus précisément en 2010. Je vais vous parler de Nidhi Barak, qui est une de nos principaux protagonistes dans cette affaire. Nidhi est une jeune femme de 20 ans. Elle vient d'une famille importante et elle a un frère. On sait également qu'elle est étudiante en art. Nidhi est en couple avec un jeune homme du nom de Dharminder Barak depuis 3 ans maintenant. Il est également présenté sous le prénom d'Armandra. L'homme de 23 ans est au lycée technique et il vient d'une famille de paysans. Le fait que les deux amoureux portent le même nom est semble-t-il une coïncidence. Apparemment, ce nom de famille est relativement répandu dans la culture hindoue, donc c'était très probable. Les deux jeunes gens viennent du même village, au début c'était amical, puis de fil en aiguille, c'est devenu un peu plus ambigu. Et ils ont fini par développer des sentiments amoureux. Désormais, ils sont à l'école de Rotak ensemble, chacun suivant ses cours. Nidhi et Dharmender souhaitent se marier. Malheureusement, ce ne sont pas à eux de prendre cette décision. Si l'Inde possède un système de caste, il y a également des structures de village qui ont tout pouvoir. Il s'agit des Kap Panchayat, des assemblées locales qui se chargent de maintenir la tradition. Il revient à ces regroupements de villages d'accorder ou non le mariage à des jeunes gens. Leur pouvoir d'intervention est tel qu'ils peuvent décider de la mise à mort des personnes ne prenant pas en compte leur décision. Nidhi et Dharmender font partie de la même caste, donc apparemment il n'y aurait pas de problème pour se marier. Et concernant les castes, pour vous en parler un peu, c'est un système de classification des personnes. Suivant la catégorie où tu te situes, t'es plus ou moins important dans la société indienne. Et faut savoir que ce classement existe depuis plusieurs siècles. Quand ils vont apprendre qu'ils veulent se marier, les familles désapprouvent leur relation, car les deux jeunes gens sont originaires du même village. Apparemment, cette situation pouvait empêcher la prise en compte d'un tel mariage, les assimilant presque à des membres de la même famille. Le couple se voit refuser le droit de s'unir. C'est un déchirement pour Nidhi et Dharmender. Ils ne peuvent pas se résoudre à renoncer à ce projet. Les deux étudiants s'enfuient le 17 septembre 2013, en direction de la capitale du pays qui est à 80 km de là. Ils ne peuvent pas se voir séparés l'un de l'autre, ils étaient fous amoureux. Ils voulaient absolument que ça fonctionne, mais le lendemain, le couple revient à Garnavati. La famille de Nidhi a promis de ne pas leur faire de mal. La question du mariage est même mise sur la table. Les proches de Nidhi sont prêts à consentir à l'union. Mais tout ça est un piège. Un plan machiavélique a été organisé. Nidhi et Dharmender sont visiblement conduits au domicile des parents de la jeune femme par une personne de confiance. C'est au sein de ce foyer que les deux étudiants vont connaître l'horreur. Quand des parents se trouvent à faire de telles promesses dans le but de faire revenir leur fille, c'est qu'il y a déjà une manigance en cours. C'était très louche. Nidhi et Dharmender avaient certainement peur qu'il leur arrive quelque chose, mais pas d'être blessés. Peut-être une séparation forcée au pire, et c'est tout. Mais malheureusement pour eux, ça ne va pas s'arrêter là. Le couple est torturé par les proches de Nidhi, subit des coups nombreux et répétés. La jeune femme a mis le déshonneur sur la famille, et il n'y a que la mort pour réparer cette situation. Et si Dharmender peut connaître un sort similaire, ce n'est que justice. Il se devait de se plier aux décisions du Kap Panchayat. Nidhi va mourir sous les coups de son frère, son père ainsi que son oncle. Dharmender est totalement brisé avant de perdre la vie. Il était en train de voir en direct celle qu'il aimait, en train de se faire tuer par sa propre famille. Une fois tous ces horreurs réalisées, c'était son tour. Ses bras et ses jambes sont cassés. Le jeune homme sera par la suite décapité. Le couple a été torturé pendant de longues heures avant de décéder. Il faut maintenant se séparer des deux corps encombrants. J'imagine que le couple a été séparé afin de pouvoir commettre l'irréparable plus facilement. L'étudiante de 20 ans est morte de la main de ceux qui la protégeaient jusque-là. La terreur a dû la saisir pendant ses longues heures de supplice. Je me dis qu'elle a dû essayer de parler à ses proches, de les supplier, de les laisser en vie, son petit ami et elle. Un feu est allumé à proximité de la maison baraque. Si la famille de la jeune femme souhaite faire disparaître Nidhi dans les flammes, le corps de son amoureux est lâchement jeté sur une place publique du village. C'est une sorte d'exemple pour tous les jeunes qui envisageraient de défier l'autorité. Un habitant du village contacte la police pour leur faire part de ce qui se déroule dans le village. Les agents se déplacent pour récupérer le corps de Nidhi, en partie calciné. Les autorités font retirer le corps de la jeune femme du brasier avant qu'il ne soit plus reconnaissable. Le corps de Dharmender est également récupéré par les autorités. Les premiers policiers sur place tentent d'interroger les membres de la famille, mais ils ne parleront pas. Le chef de la police locale, Anil Kumar, fait des déclarations au sujet de la presse. Tous deux appartenaient au même village et à la même caste. C'est un meurtre d'honneur, mais le meurtre n'a pas été approuvé par la société. Même après plusieurs arrestations, notamment le père, la mère et l'oncle de Nidhi, il assure que d'autres personnes sont toujours recherchées. Les premières interpellations ont eu lieu dès le lendemain des meurtres. Il y a le frère de la jeune fille, un ami de celui-ci, le chauffeur ayant conduit le couple chez la famille Barak. Au total, 7 membres de la famille Nidhi auraient participé à ce massacre. Dans le lot, on a quand même des propriétaires d'une société prospère à New Delhi. C'est dire à quel point cette relation amoureuse aurait perturbé tout le monde. Et il était important pour eux d'y remédier. Les parents de Dharminder ne portent pas plainte suite à la mise à mort de leur fils. Pour eux, le jeune homme a eu le sort qu'il mérite. Frères et sœurs peuvent-ils se marier? C'est notre devoir de punir nos enfants. C'est ce que va déclarer le frère de Dharminder. Et il avait aucun cœur. Le mec vient de tuer son frère, bordel, et il... C'est absurde. Certains membres du voisinage reconnaissent qu'ils auraient agi de la même manière si leur enfant avait fait la même chose. Le propre père de Nidhi n'a exprimé aucun regret quant à son geste. Il est même certain qu'il le reproduirait s'il le fallait. Voici ce qu'une tante de la famille va dire. « Ce qui s'est passé était mal, mais si un père a fait un si grand pas, il doit y avoir une raison. » Je vous promets, quand j'entends des phrases pareilles, j'ai l'impression qu'ils vivent dans une autre planète. À force de traiter ces sujets, je vous jure, je trouve ça toujours fou de voir à quel point il y a des malades sur Terre. Enfin bon, poursuivons. L'état de l'Ariana a malheureusement connu de précédentes tragédies du même type. De nombreux couples qui n'ont pas respecté les traditions ont été victimes de ce fameux crime d'honneur. Certaines de ces assemblées interdisent le mariage entre mêmes castes, comme dans le village où Nidhi et Dharminder s'étaient connus. En 2011, la Cour suprême dit que pour tout acte responsable de crime d'honneur, il y aura la peine de mort. On se retrouve enfin après nos deux histoires, et autant vous dire qu'elles ont été très dures à réaliser. Entre une jeune femme divorcée qui a voulu échapper à son ex-mari et un jeune couple désireux de se marier, le crime d'honneur prend forme sous bien des aspects. L'honneur bafoué de la famille dont on rejette la décision. L'honneur qui porte bien mal son nom, en vérité. Keltoum était une femme forte, qui a suivi un parcours semé d'embûches après avoir pris une lourde décision. Elle ne supportait plus cette vie violente et elle voulait juste reprendre le contrôle. Mais son ex-mari était toujours présent, même après s'être remarié. Il la voulait elle, puis voulait ensuite récupérer les enfants. Elle a tenu bon jusqu'au bout, entre les menaces de cet homme et les obstacles de l'administration. Sa mort n'a malheureusement pas empêché les mauvaises langues de justifier le passage à l'acte de son meurtrier. Concernant Nidhi et Dharminder Barak, ils ont eu le malheur de se rencontrer, d'apprendre à se connaître et de s'aimer. La relation durait depuis 3 ans, et le couple songeait à passer un cap supérieur. Mais les parents des deux étudiants n'étaient pas en accord avec cette idée. Ils ont fait fuir le couple et lui ont menti afin de les faire revenir. L'avenir que Nidhi et Dharminder planifiaient a été brisé dans son envol. Le couple se retrouvera malheureusement uni dans la mort, à défaut de l'être, pour la vie. Et ici je tiens à transmettre toutes mes condoléances aux proches des Keltoum, Nidhi et Dharminder. Même si dans la deuxième affaire, les familles du couple ont été d'une cruauté sans nom. Je me dis que dans leur entourage, ils doivent quand même manquer à de nombreuses personnes. Enfin j'espère en tout cas. Enfin bon, j'attends vos avis concernant ces deux histoires en commentaire. J'ai hâte de vous lire et qu'on puisse parler de tout ça. Merci comme d'habitude de m'avoir écouté et il est temps pour moi de vous laisser là. Prenez bien soin de vous et vos proches et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.